Your conference is being recorded.
Jean-Jacques, la parole est à toi.
Voilà, bonjour à tous. Je vous souhaite d'abord, au nom de Lazard Frères Gestion, la bienvenue dans cette conférence call qui va nous permettre de faire un point sur la macroéconomie et sur les marchés financiers. J'espère bien sûr, avant toute chose, que tout va bien pour vous, pour vos proches et pour votre famille. Nous sommes maintenant rentrés, pour la plupart en tout cas, au bureau. Mais nous allons continuer, tant que tout n'est pas rentré dans l'ordre, à utiliser cette forme de communication qu'est la conf call ou la visio, aussi bien pour vous parler des classes d'actifs, pour vous parler macro, parler de, sur les produits financiers, sur les produits OPCVM, ou bien encore sur des thématiques choisies. Alors à ce propos, j'en profite pour faire un peu de pub. Je vous rappelle que nous avons une conf call demain à 11h15 sur Lazard Equity SRI, vendredi à 10h15 sur Lazard Patrimoine, et la semaine prochaine, alors ça c'est une conf call importante parce que Mathieu et ses équipes ont beaucoup travaillé sur cette thématique. C'est vrai qu'on avait beaucoup de questions de la part de nos investisseurs sur les déficits, jusqu'où peut-on aller, sur la compréhension des différentes natures de dettes entre les banques centrales, les États, comment va-t-on faire pour rembourser les déficits énormes que nous connaissons actuellement. Ah bon, beaucoup de questions. Et donc jeudi 17 juillet à 11h15. Donc conf call animé par Mathieu Brouès avec comme thème déficit, dette publique, banque centrale, quelles issues possibles. Donc c'est un thème chargé. Donc je vais laisser la parole justement à Mathieu Brouès qui là va vous parler macro et marché, qui va essayer de tenir en 30 à 40 minutes. Juste signaler la présence d'Éléonore Bunel et de Régis Becquet, qui pourront répondre aussi à vos questions, s'il y a des questions plus particulièrement sur les obligations pour Éléonore et sur les actions pour Régis. Donc, les questions, vous pouvez les poser via SpeakUp, avec comme code salle 10392. Donc, Mathieu, la parole est à toi.
Merci Jean-Jacques, bonjour à tous. Donc j'attaque directement sur le premier slide du document où on représente rapidement le scénario qui est le nôtre sur l'épidémie. On va regarder quelques courbes derrière sur l'épidémie, mais pour rappel, notre scénario, qui est le point de départ pour faire des prévisions sur l'économie et les marchés, c'est qu'on va avoir globalement une poursuite du déconfinement, en tout cas pas de reconfinement significatif, qu'a priori on n'aura pas de vraie deuxième vague significative, que si on a des reprises de l'épidémie à certains endroits, on aura des mesures plutôt différenciées, spécifiques, et donc avec un impact macroéconomique sans commune mesure avec ce qu'on a connu ces derniers temps. Et on exclut le scénario vraiment négatif d'un reconfinement massif, et on exclut le scénario très positif d'un traitement miracle ou d'un vaccin qui marcherait, qui lui aurait un côté assez euphorisant sans doute sur l'économie. Donc ça c'est notre scénario et on l'a pas fait évoluer, c'est toujours notre base. Si on regarde concrètement ce qui s'est passé, les dernières évolutions, c'est un rebond du nombre de nouveaux cas aux États-Unis. On va revenir dessus derrière. Une situation toujours très 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 positive en Europe et en Asie, des pays émergents où la situation continue à être compliquée, comme le Brésil ou l'Inde en particulier. Mais on a des graphiques juste derrière. Donc pour l'illustrer, donc page 5, on a l'évolution des nouveaux cas et des décès aux États-Unis, donc avec un nombre de nouveaux cas qui est en phase d'accélération indiscutable depuis maintenant un moment. Pour autant, il ne se passe pas grand-chose sur les décès. Alors, il faudra suivre les prochains jours attentivement pour vérifier que ça reste vrai. Parce que là, c'est vrai qu'on a eu 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, qui correspondait à une forme de dont le vendredi était férié en anticipation du samedi 4 juillet. Et donc, c'est vrai que les 3 derniers jours peuvent être un peu biaisés par ce côté week-end plus jours fériés. Mais bon, pour l'instant, c'est la situation d'une absence de reprise du nombre de décès. ce sont dans les pays essentiellement hein, la Sun Belt au sud des États-Unis qu'on a une accélération du nombre de cas. Alors on sait que ces nouveaux cas sont très concentrés chez les jeunes, ce qui peut expliquer pourquoi le nombre de décès accélère beaucoup moins. Bon, là, hein, le nombre de décès pour tous ces États, c'est en haut de la page 6. On voit que les courbes sont quand même beaucoup moins verties à l'accélération, beaucoup moins exponentielle que sur le nombre de nouveaux cas. Donc, ça peut tenir à des progrès sur la façon de traiter les gens, sans doute, de les soigner. On a appris quand même un peu à comment mieux traiter la maladie, mais ça tient beaucoup, semble-t-il, au fait que les personnes âgées restent assez confinées chez elles. Les jeunes, à l'inverse, sortent beaucoup et oublient un peu le risque. Et donc, on a une concentration des nouveaux cas sur des populations jeunes qui sont beaucoup moins fragiles et donc un taux de décès beaucoup plus faible. Voilà. Mais on a quand même une accélération dans un certain nombre d'États. Après, c'est vrai que les chiffres n'ont rien à voir avec ce qu'on avait pu avoir à New York. Donc New York, c'est sur l'échelle de droite. On était monté à pratiquement 800. Vous voyez que sur les différents États, on reste sur des chiffres sur l'échelle de gauche qui sont très très inférieurs. Comme évoqué, on a face à l'accélération des nouveaux cas, on a certains États qui font une pause dans la réouverture. On a des États qui inversent ce processus de réouverture, et donc c'est assez significatif en fait. Hein, si vous regardez sur la carte qu'on a prise, c'est une carte du New York Times. On s'aperçoit que c'est à peu près la moitié des États qui sont soit en mode pause, soit en mode reversing. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas totalement négligeable. Alors c'est vrai que c'est pas aussi violent que ce qu'on a pu avoir hein, comme lockdown en Europe. Il y a des endroits où on ferme les bars, où on les ferme à partir d'une certaine heure, où on ferme les restaurants pour l'intérieur. C'est pas des mesures qui auront forcément un impact colossal sur l'activité. Mais c'est vrai que c'est quand même une vraie mauvaise nouvelle. C'est pas un scénario qu'on avait intégré. Et que le marché, c'est pas un scénario que le marché avait intégré, mais force est de constater qu'il absorbe quand même assez bien ces mauvaises nouvelles. L'impact, hein, c'est aussi que dans le comportement des gens, ça se voit, en tout cas, ça semble se dessiner. La courbe est pas totalement, on peut pas totalement conclure dessus, mais on a le sentiment quand même que la mobilité, qui est mesurée là, c'est l'indice de la Fed de Dallas, qui était sur une tendance haussière régulière, a l'air de plafonner depuis maintenant 10-15 jours, montrant que les mesures implémentées modifient aussi le comportement des personnes. Voilà, donc c'est pas des très bonnes nouvelles, mais c'est vrai que l'impact d'un point de vue macroéconomique va quand même rester du second ordre, selon nous. Sur les chiffres économiques proprement dit, donc sur les États-Unis, on a une poursuite des bonnes nouvelles. Hein, ça fait maintenant à peu près 2 mois qu'on a des statistiques qui surprennent à la hausse. Donc, une nouvelle surprise à la hausse sur le rapport sur l'emploi américain. Alors là, le marché attendait des créations d'emplois, mais elles ont été sensiblement supérieures à ce qui était attendu. Pour rappel, hein, le mois précédent, le marché attendait des fortes destructions d'emplois et on avait eu des fortes créations d'emplois. Mais on est quand même à deux mois de surprises très favorables. On a un taux de chômage mécaniquement qui rebaisse. On n'est plus que, si on peut dire, à 11,1%. Mais c'est quand même vraiment un plus que, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui pensaient qu'on serait à 10% en décembre. On est passé de 15 à 11,1 en 2 mois. Je pense que les scénarios les plus noirs avec un chômage à 10% en fin d'année deviennent quand même un peu moins probables. On vous a mis le taux de chômage augmenté, hein, c'est ce qu'on appelle U6 dans la catégorisation américaine, donc en ajoutant les gens qui ne sont pas comptés comme chômeurs proprement dit, mais qui ont des temps partiels ou des choses comme ça, alors qu'ils voudraient des emplois à plein temps. Sur la page 9, on vous a mis l'évolution de la consommation des ménages, donc avec un fort rebond de la consommation, on a rebondi de 8%. Après une baisse cumulée hein, qui était de 18, donc on n'a fait qu'effacer une petite partie, un peu moins de la moitié de la baisse. C'est surtout dans les biens qu'on a eu ce rebond, et en particulier dans les biens durables, ce qui était assez logique. Hein, c'est-à-dire que les gros achats n'ont pas pu être faits pendant le confinement ont juste été reportés pour la plupart, et donc forcément on a... C'est la partie qui progresse le plus rapidement. Donc c'était plutôt une bonne surprise sur les chiffres de consommation. Sur les chiffres du comportement d'épargne des ménages et de leurs revenus. On a des chiffres en mensuel aux États-Unis, hein. C'est, je pense, le seul pays où on a des chiffres précis mensuels. Et c'est toujours intéressant quand on regarde en fait sur mars, avril, mai, ce qui s'est passé d'un point de vue épargne des ménages américains. C'est donc la partie grisée à droite. Ils ont en trois mois épargné l'équivalent de 4% de leurs revenus annuels. Donc ce qui est quand même vraiment significatif. Et en fait, quand on voit d'où vient cette épargne qui a pu être constituée, ça vient pour partie du fait que la consommation sur ces trois mois a été en baisse par rapport à la normale. Donc si vous consommez moins, toute chose égale par ailleurs, vous épargnez plus. Et ça vient aussi du fait que on a eu une hausse des revenus pour les ménages sur la période. C'est-à-dire que c'est pas une période qui a déprimé les revenus, hein, c'est une période qui a boosté, qui a dopé les revenus. Parce que si on a eu une baisse des revenus d'activité de l'ordre de 1,4%, on a eu grâce aux transferts nets, aux chèques qui ont été envoyés. Alors les chèques, c'était surtout dans la première partie. Depuis, c'est plus les indemnisations de chômage qui jouent maintenant. Mais entre les chèques et les indemnisations de chômage, en fait, on a eu un effet beaucoup plus positif que l'effet négatif lié à la baisse des revenus. C'est pratiquement le double, en fait, un peu, 2,6 contre moins 1,4. Et donc voilà, c'est important de garder ça à l'esprit. En masse, je ne parle pas de situation particulières, hein, qui peuvent être bien sûr extrêmement dures, mais en masse, les ménages américains non seulement ont moins consommé pendant trois mois, mais en plus, ils ont eu plus de revenus de façon non négligeable, et donc ils se retrouvent avec un stock d'épargne qui a cru, et donc une situation particulièrement favorable. Sur les entreprises, donc on a commandes de biens durables, on a eu un rebond assez significatif, qui était plutôt une bonne surprise. Donc hors éléments volatiles, défense et aviation, en fait la contraction aura été assez modeste si on en reste là, hein, très très inférieure à 2000 ou à 2008-2009, c'est la courbe noire, on est déjà en train de rebondir, quelque chose de même inférieur à 2015-2016, donc qui n'était même pas une récession. Par contre, si on regarde le global, là on a eu une baisse qui était équivalente à une récession plutôt dure. Par contre, on a, si ça se poursuit, une vitesse de rebond qui est beaucoup plus rapide que 2008-2009, où on est resté quand même à des niveaux très bas très très longtemps. Donc là aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Côté résidentiel, on a une confirmation, hein, de ce qu'on avait déjà perçu par différents indicateurs, en particulier les nouvelles demandes de prêts hypothécaires, c'est qu'en fait, on rebondit incroyablement vite. On a mesuré au moment du compromis de vente, on est quasiment revenu à un niveau normal sur les ventes de maisons dans l'ancien, et sur les ventes de maisons neuves aussi, on a eu des très bonnes statistiques. Donc on a quand même cette confirmation que, un, le résidentiel va bien, ce qui est une bonne nouvelle pour l'activité en tant que telle, et deux, que la psychologie des ménages n'est pas si atteinte que ça, parce que voilà, on n'achète pas de l'immobilier si vraiment on est très inquiet sur la situation présente ou sur l'avenir. Et donc c'est aussi un signe plus général que le consommateur américain est toujours très présent. Il ne faut sans doute pas sous-estimer sa capacité à acheter dans les mois futurs quand on déconfinera encore plus. Côté enquête, donc on a eu des indices ISM avec un fort rebond. On est dans le manufacturier, on a rebondi autour de 52-53. Dans le non-manufacturier, on a rebondi sur des niveaux élevés, autour de 57-58. Donc ce qui sont des niveaux quasiment normaux, et des nouvelles commandes qui bondissent, elles, à 66. Donc c'est quand même de bon augure. La perception, en tout cas, que les entreprises ont de la situation n'est pas du tout catastrophique aujourd'hui. Elle est plutôt assez positive. Et donc, sur les ménages, je vous disais que leur comportement, vu visiblement, ça montrait qu'ils étaient assez confiants quand même. On le retrouve sur les enquêtes. Donc, dans l'enquête de confiance du Conference Board, on a une décomposition. Situation présente, anticipation. Situation présente, on a un choc quand même très violent, comparable à ce qu'on a à chaque récession, hein, que ce soit 93, 2000 ou 2009, on baisse à peu près de la même ampleur. Sauf que là, on commence déjà à rebondir, alors que normalement, il faut pas mal d'années. Et par contre, ce qui est frappant, c'est que sur les anticipations, on n'a absolument aucune dégradation aujourd'hui. On a un niveau qui est pas très loin des plus hauts historiques sur les anticipations pour les ménages au niveau de leur confiance. Et donc voilà, c'est bien sûr des éléments très, très positifs. Sur la zone euro, on a eu aussi un fort rebond des ventes au détail. On a eu aussi un rebond un peu moins marqué, mais non négligeable des immatriculations. Sur la zone euro, on insiste sur le fait que la situation diffère fortement selon les pays, et donc il faut faire très attention quand on est dans un pays à pas généraliser la situation à l'ensemble de la zone euro dans ce qu'on voit dans un pays. Et c'est, si on regarde les ventes au détail, là on vous a mis la variation cumulée sur février, entre février et mai, donc on compare mai à février, donc le dernier mois qu'on a par rapport à l'avant-crise. Et on s'aperçoit qu'on va de moins 18-19% pour l'Espagne ou le Portugal à du plus 3 pour l'Allemagne. Donc c'est quand même assez large comme possibilité. Et la France, qui était le plus négatif entre février et avril, n'est plus le plus négatif, mais reste quand même autour de moins 15, donc à peu près le double de baisse que la zone euro dans son ensemble, qui est à moins 7,5. Donc voilà, c'est important, vu qu'on est en France, de ne pas généraliser la situation française qui, sur le plan consommation, vente au détail, est beaucoup plus déprimée que le reste que la zone euro quand on l'agrège. Sur les PMI dans la zone euro, donc on a un très fort rebond. On n'est pas encore à 50, mais on est quand même sur des niveaux qui sont très élevés. Sur le chômage, juste en dessous, on a un chômage qui a très peu monté. Alors c'est vrai qu'on ne compte pas le chômage partiel dedans, contrairement aux États-Unis où ce qu'ils ont qui ressemble à du chômage partiel est compté dans le chômage agrégé. Et on fait une distinction hors Italie y compris Italie, parce que c'est vrai que sur l'Italie, ils ont décidé de compter les personnes qui n'étaient pas. Ils ont appliqué la définition normale, qui est que vous n'êtes chômeur que si vous cherchez activement un emploi. Mais c'est vrai que pendant la période de confinement, quand vous êtes, je ne sais pas, garçon de café et qu'on vous met au chômage parce que tous les cafés de la ville sont fermés, c'est un peu naïf d'espérer que le garçon de café puisse aller chercher un emploi pendant cette période de confinement. L'Italie a sorti toutes les personnes de ce type-là de son taux de chômage, qui est un peu faussé et qui fait qu'on a eu une baisse du chômage en Italie sur la période. Donc c'est peut-être hors Italie qu'il faut le regarder, mais en tout cas la hausse du chômage est assez modeste pour l'instant. Il y aura sans doute des effets de deuxième vague sur la partie chômage, mais pour l'instant ça reste très, très modeste. On a au niveau de l'Allemagne des chiffres de production automobile où on a aussi un très fort rebond, donc on n'est pas revenu à un niveau de production normal, sachant qu'on ne sait plus bien où est la normale en Allemagne. On avait un niveau normal qui a prévalu pendant une dizaine d'années. Et puis en 2018, on a baissé de façon avec une nouvelle norme plus basse. En 2019, on a rebaissé avec une nouvelle norme un peu plus basse. Et donc on ne sait pas exactement quelle est la véritable nouvelle norme. Mais voilà, le rebond est assez impressionnant, mais on n'est pas totalement revenu à la normale pour autant. Côté commande, par contre, en Allemagne, ça reste un rebond très modeste à aujourd'hui. Alors les statistiques ne concernent pas le même mois. La production automobile, c'est déjà le mois de juin. Les commandes ne concernent que le mois de mai, et c'est peut-être juste un retard. Il faudra suivre sur la publication concernant le mois de juin si effectivement ce n'était qu'un retard ou si il y a plus de difficultés sur le rebond, sur les commandes de biens manufacturés sur l'Allemagne. Sur côté crédit, on a des prêts aux entreprises qui restent très dynamiques. Les entreprises ont tiré sur leur ligne de crédit, on le sait, au tout début de la crise. Le marché obligataire est resté assez ouvert, l'ensemble du crédit est resté assez ouvert. Côté ménage, on avait eu des baisses sur deux mois, pas vraiment surprenante. C'est sûr que les achats immobiliers ou les achats de voitures baissant, forcément le nombre de prêts a baissé. On a eu un petit rebond quand même sur le dernier mois, donc c'est plutôt une bonne nouvelle que ça reparte déjà à la hausse, mais c'est vraiment un premier mouvement. Côté dépôt, on a toujours des dépôts qui sont très importants. On a des variations de dépôts toujours positives, on continue d'accumuler aussi bien côté entreprise que côté ménage. Donc on a globalement des masses monétaires qui se développent, moins rapidement dans la zone euro qu'aux États-Unis, c'est vrai, mais on a quand même un mouvement mondial d'augmentation et d'accélération des masses monétaires. Sur la Chine, on a eu des données d'activité qui continuent de s'améliorer avec toujours la dichotomie, hein, les ventes au détail restent un peu plus poussives que l'investissement ou la production industrielle. Donc c'est un peu une particularité de la Chine, parce que quand on regarde d'autres, certains pays européens sont déjà passés positifs en glissement sur un an. La Chine est toujours à moins 3%, alors même que sa norme, c'est plutôt plus 8, donc ça reste un vrai décalage. Alors peut-être que sur le mois suivant, on va avoir une amélioration, on peut l'espérer, parce que quand on regarde les enquêtes PMI, c'est vrai que la toute dernière enquête a vu une forte accélération du PMI non manufacturier, qui est au plus haut depuis une dizaine d'années. Et donc voilà, peut-être que c'est en train de se débloquer aussi hors manufacturier en Chine. Il faudra suivre les chiffres d'activité réelle au cours des prochains mois pour voir si les enquêtes donnent un signe fiable ou si finalement ce signe positif n'était pas confirmé par les chiffres réels d'activité. Les nouveaux prêts en Chine continuent d'accélérer, hein, donc il y a toujours un soutien des autorités pour pousser l'économie. C'est moins violent qu'en 2008-2009, où ça avait été très 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 agressif, mais ça reste quand même quelque chose de très fort. Sur la Chine, on a toujours la question de l'épidémie qu'on surveille. On avait eu un rebond du nombre de nouveaux cas qui pouvait inquiéter un peu sur l'économie chinoise, avec Pékin qui avait revu des nombres de cas journaliers autour de 30-35. Depuis, ça a été contenu et donc on a pu de nouveau relever le confinement partiel qui avait été mis en place. Donc d'un point de vue macro, ça ne devrait pas trop se voir a priori. Sur les pays émergents, donc on a là aussi un fort rebond des PMI. On n'est pas très loin d'un retour à la normale. Donc confirmant ce qu'on a vu, hein, sur les pays développés. Et on a, malgré une épidémie qui reste difficilement contrôlé dans un nombre non négligeable de pays, on a toujours un déconfinement qui se met en place. Quand on compare, hein, le niveau de confinement à deux dates, entre la fin mai et le tout début juillet, on s'aperçoit que le niveau de confinement sur le tout début juillet, à deux exceptions près, est inférieur, hein, pour tous les pays. Donc quand on est au-dessus de la droite, c'est qu'on a durci. Quand on est en dessous, c'est qu'on a assoupli. Vous voyez que quasiment tous les pays ont assoupli. Et ce qu'on durcit, c'est assez marginal. Voilà, donc sur la partie macro, la conclusion, c'est que on a une confirmation, hein, qu'on est sur un scénario de reprise de l'activité. On a les États-Unis qu'on surveille sur l'épidémie, puisque c'est vrai que ça provoque un peu de reconfinement ou de ralentissement dans la sortie du confinement. Ça peut peser un peu sur l'activité, ça ne change pas, ne paraît pas devoir changer la donne globalement, en tout cas en l'état, s'il n'y avait pas d'accélération, mais qu'on n'anticipe pas. Quelque part, on pourrait se dire que la réaccélération des cas américains sur la macro des 18 prochains mois, c'est peut-être positif, parce que c'est vrai qu'on a ce dernier plan de relance, sans doute massif, s'il a lieu, qui est envisagé. Si tous les États-Unis avaient connu une courbe de nouveaux cas et de décès similaire à New York, on peut se dire que ça aurait sans doute diminué fortement les chances d'avoir un nouveau plan de relance massif. Avec l'accélération du nombre de nouveaux cas sur les États-Unis, ça maintient une pression sur les politiques et donc ça augmente la probabilité d'avoir ce dernier plan massif de relance, ce qui bien sûr serait très positif pour l'économie à court terme et pour les marchés financiers. Donc sur la partie marché, on a des déclarations de la Fed comme quoi les taux restent très bas de façon durable, ce qui a fait baisser les anticipations, hein, sur les taux courts sur les 3-4 années à venir. On a baissé de l'ordre de 0,02%. On a eu une petite remontée des anticipations d'inflation, donc qui avait beaucoup baissé, hein. C'est une remontée tendancielle, c'est pas un choc violent, après une forte baisse, mais c'est vrai qu'on est quand même dans un mouvement de remontée des anticipations d'inflation. sans remonter des taux d'intérêt nominaux, et donc mécaniquement ça fait une baisse des taux d'intérêt réels à la fois dans la zone euro et aux États-Unis. Et donc on est autour de -1, -1,5% aujourd'hui. Donc on est anti-rémunéré, rémunéré négativement pour prêter à des États aujourd'hui de façon non nulle, en réel -1, -1,5, ça commence à devenir significatif sur 10 ans, -1,5, ça fait -15, c'est pas du tout anecdotique. Sur le crédit, donc après la phase de très forte tension, puis l'amélioration assez rapide en deux temps qu'on a connu, on a une stabilisation depuis quelques temps, qui est assez compréhensible. Hein. Le mouvement de retour avait été quand même extrêmement violent et on ne peut pas exclure, il est même probable qu'on ait quand même un taux de défaillance, de faillite qui augmente. Donc il y a une certaine logique. Mais c'est vrai que aussi bien pour le crédit que pour le crédit privé que pour les États périphériques, on a des soutiens quand même qui sont assez importants de la part des autorités, en particulier la BCE qui aide. On a eu en plus le Parlement allemand qui a voté une motion validant l'action de la BCE, ce qui devrait mettre fin au petit épisode entre la Cour constitutionnelle allemande et la Cour constitutionnelle européenne. Et donc voilà, on a quand même toujours ces éléments positifs qui soutiennent à la fois le secteur privé et les États périphériques. Sur les marchés actions, donc on a eu un rebond assez impressionnant, assez étonnant en quelque sorte. Ça ne tient pas à une situation bien meilleure qu'attendue finalement côté profit des entreprises. Hein. On a plutôt des révisions à la baisse des profits 2020 et 2021 qui continuent, alors plus dans la zone euro qu'aux États-Unis. Mais dans la zone euro, on est toujours sur plutôt des révisions à la baisse. Et 2021, certes, est anticipé bien meilleur que 2020, mais quand même en dessous de 2019 ou 2018. Donc c'est quand même pas totalement positif comme prévision. Sur les États-Unis, on n'a plus de révision à la baisse, c'est vrai, mais on est sur des prévisions de résultats qui finalement sont équivalentes à ce qu'on a eu en 2019 et qui sont bien inférieures à ce qu'on attendait pour 2021 il y a 6 ou 12 mois, hein, ce qui est assez logique. Donc voilà, les résultats ne s'écroulent pas, on va dire, ne sont pas alarmants, mais on ne peut pas y voir un message très positif, hein, ce qui a fait le rebond du marché. Je ne pense pas que ce soit lié à un changement de perspective de résultats. Et en tout cas, sur la page suivante, quand on regarde l'évolution du PER prospectif, on s'aperçoit qu'on est sur des niveaux qui sont très élevés. Alors c'est un PER prospectif 12 mois, donc c'est quelque part pas biaisé, mais c'est vrai que les marchés ne regardent pas 2020, ils regardent uniquement 2021. Et donc dans le prospectif 12 mois, vous avez le premier semestre de 2021, mais aussi le deuxième semestre de 2020. Donc on est à cheval sur les deux années. Mais même si on prenait uniquement les résultats 2021, on serait quand même sur des PE qui sont en hausse, hein, par rapport à ce qu'on a eu récemment. Et ça tient, pourquoi les marchés acceptent-ils de payer plus cher les actions qu'ils acceptaient de les payer il y a quelque temps? Parce qu'on a un support, un soutien extrêmement important et très très clairement affirmé de toutes les autorités, que ce soit gouvernementale ou monétaire, et puis parce qu'on a en fait des taux d'intérêt qui ont énormément baissé, et quand on compare aux autres classes d'actifs, en fait on a toujours un net avantage aux actions. Donc sur le graphique du bas, on vous a mis dans la zone euro, où on voit le rendement très supérieur sur les actions par rapport à l'obligataire, ce qui ne change pas fondamentalement par rapport à la situation des dernières années. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'aux États-Unis aussi, on n'a pas vu le graphique, avec la baisse du 10 ans américain, on a créé aussi un écart en faveur des actions. Et donc voilà, je pense qu'une bonne partie du rebond du marché des dernières semaines, derniers mois, tient à l'absence d'alternatives pour faire des performances satisfaisantes sur du moyen terme. Il n'y a pas grand-chose d'autre aujourd'hui que les actions, surtout si on prend en compte que l'addition de toutes ces mesures de relance, de toute cette masse monétaire qui se crée, pourrait quand même à un moment faire réapparaître des pressions à la hausse sur l'inflation. Ce n'est pas un discours qu'on entend beaucoup aujourd'hui des banques centrales ou des autorités, mais les montants sont tels que si l'épidémie finalement se résout assez bien, on ne peut pas exclure que ce soit un sujet qui apparaisse d'ici 12-18 mois. Et dans ce cas, c'est sûr qu'on est sans doute mieux à être sur des placements actions, même un peu chers, que sur des obligations d'État avec des taux à zéro ou voire légèrement négatifs. Voilà, et donc la conclusion sur les marchés, c'est que, sur notre avis sur les actifs risqués, c'est que la situation reste très complexe. Hein, on n'est pas du tout sur des moments où on a le sentiment que tout va dans le même sens, et où on peut faire une prévision avec un taux de confiance très élevé. On n'en est pas là. On a des éléments des deux côtés qui sont très forts. Côté négatif, on a deux éléments majeurs qui pèsent. C'est d'abord, on a un niveau d'incertitude qui reste extraordinairement élevé, en particulier à cause de cette épidémie. Voilà, on ne peut pas exclure complètement une deuxième vague. Peu de choses peuvent être totalement exclues aujourd'hui. On a aussi beaucoup d'incertitudes sur les politiques économiques. Est-ce qu'on aura le plan de relance ou pas aux États-Unis, etc. On a le fait qu'on a eu un très fort rebond des marchés sur les dernières semaines, supérieur à ce qu'on anticipait, sans doute. Et donc, ça pose un peu des questions. Par contre, pour nous, ces éléments négatifs sont toujours compensés aujourd'hui par des éléments positifs, qui sont que le point bas économique est sans doute passé. Donc, on est sur un flux de nouvelles qui est positif maintenant. On a des politiques monétaires et budgétaires hyper accommodantes, sans limite. Personne ne s'interroge sur savoir si rajouter des milliers de milliards de plans de relance, si à un moment ça devient excessif, il n'y a pas de discussion. Et sur les politiques monétaires non plus. Donc, on est vraiment sur quelque chose de quasi illimité, ce qui est un soutien très important, bien sûr, pour les marchés des classes d'actifs risqués. On a des investisseurs qui sont toujours positionnés de façon prudente. On a plusieurs indicateurs, on ne les a pas mis là, mais on a un indicateur de State Street qui va dans ce sens-là. On a un indicateur aussi de JP Morgan qui va dans ce sens-là. En masse, les investisseurs sont plutôt sous-investis sur les actifs risqués. Alors, c'est peut-être plus vrai aux États-Unis que dans la zone euro, c'est possible. Mais c'est ce qu'on a comme indication en masse. Et donc ça nous protège un peu. Hein. Si tout le monde était déjà sur-investi, ça fragiliserait la situation. C'est visiblement pas le cas. Et puis le dernier élément, qui est l'élément le plus important de tous, c'est la valorisation relative par rapport aux actifs sans risque. Quand on a des taux d'État 10 ans américains à 0,6% de rendement, donc performance cumulée sur 10 ans qui sera de 6% hein, si on reste pendant 10 ans, toutes les autres classes d'actifs de long terme paraissent tout d'un coup moins chères en comparaison. Et c'est un soutien extrêmement, extrêmement important. Et donc voilà, en net, on est toujours sur une position positive sur les actifs risqués. Ce n'est pas une position facile, hein. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'argument contraire, on ne dit pas que c'est un choix totalement évident, mais quand on fait un solde des éléments négatifs et des éléments positifs, c'est quand même notre sentiment, c'est qu'il y a toujours un intérêt aujourd'hui à être surpondéré sur les actifs risqués, en particulier sur les marchés actions.
Merci Mathieu. Alors j'ai une question, speak up. La reprise d'activité dans les différentes zones géographiques semble tirée par la consommation locale. Quid des imports-exports?
Les imports-exports restent quand même assez corrects. Hein. J'ai pas, très honnêtement, j'ai pas en tête les tout derniers chiffres. Mais on avait vu un rebond dans un certain nombre de pays assez rapidement sur le commerce. Et il y a assez peu de raisons que le commerce ne reprenne pas, parce que la consommation, alors on peut dire qu'il y a une forme de relocalisation et de volonté de consommer des choses produites proches, Mais la réalité, c'est que 90% des choses qu'on, 99% des choses qu'on consomme sont les mêmes aujourd'hui que ce qu'on consommait il y a 6 mois. Et donc le poids des choses importées est à peu près toujours le même, quoi. Donc je pense pas que le commerce international va peu repartir avec le rebond économique qu'on est en train de connaître. Après, on peut avoir, ça c'est vrai, une inflexion tendancielle de moyen terme, c'est-à-dire avec la mondialisation, ce phénomène de mondialisation qui se tasse, et un phénomène de relocalisation qui apparaît. C'est quelque chose qu'on peut pas exclure, mais qui ne peut pas en fait avoir un impact majeur sur les importations qu'on va avoir et exportations qu'on va avoir dans les tout prochains mois. Ça va plus. Si ça a lieu vraiment, c'est quelque chose qui va se diffuser progressivement.
Alors, j'ai une question sur une classe d'actifs qui, justement, Arnaud Brillois, malheureusement, n'est pas là. Les convertibles conservent-elles un intérêt actuellement? Lui répondrait oui, mais bon, toi, Mathieu.
C'est une question qui est assez complexe, c'est-à-dire que sur les convertibles, vous avez du crédit, vous avez, on va dire c'est 4 choses, hein, donc surtout si on les pense au niveau global, les convertibles, c'est 4 choses, c'est du crédit, c'est des actions, c'est une option, et en même temps c'est l'accès à des types de d'émetteurs qui sont un peu différents de ce qu'on a sur les actions. Avec plus de technologies, par exemple, etc., plus de sociétés innovantes, des sociétés peut-être un peu moins avancées en moyenne dans leur cycle de développement. Donc voilà, sur le crédit, les actions, on est positif, donc c'est vrai que pourquoi pas, c'est une façon de le jouer. Sur la partie optionnelle, est-ce que la volatilité aujourd'hui implicite et bon marché? Franchement, j'ai pas d'avis. C'est une question qui est assez compliquée. Et après, la dernière question, qui est peut-être la principale, hein, quand on fait des convertibles, c'est de savoir est-ce qu'on veut jouer de la grosse, quoi. C'est-à-dire que clairement, en faisant des convertibles, on est plus tourné vers de la grosse que vers la value. C'est, en tout cas, c'est ce que je comprends. Si Régis est connecté et que je dis des bêtises, qu'il n'hésite pas à me contredire. Mais que donc voilà, c'est peut-être un. Ça se résume peut-être à un choix de, quelque part, le principal choix en sens des convertibles monde, c'est peut-être un choix de style plus qu'autre chose, plus que la partie optionnelle ou tout le reste. Et là, on revient à l'éternelle question, c'est est-ce que la grosse va continuer de monter, est-ce que ça peut durer indéfiniment, est-ce qu'on va avoir un rattrapage de la value. On est toujours dans la même analyse qui nous paraît que c'est extrêmement, l'élastique est extrêmement tendu aujourd'hui, que la grosse est sans doute trop valorisée par rapport à la value, et qu'à un moment, sans doute, on aura une surperformance de la value par rapport à la grosse. Mais de savoir quand est-ce que ça va se produire, c'est une question très compliquée. Ça va dépendre de l'évolution des taux d'intérêt qui a joué un rôle très important dans cet écartement. Et ça va jouer aussi en fonction des perspectives de vrais rebonds cycliques de l'activité durable au-delà du réveil de l'économie après le confinement, quoi. Mais je pense qu'il faudra aussi peut-être une reprise cyclique plus forte pour permettre à la value, en plus de la hausse des taux, de pouvoir surperformer. Je ne sais pas si Régis est connecté, s'il veut ou s'il...
Je suis connecté, je ne sais pas si on m'entend.
On t'entend.
Oui, on t'entend.
Je pense que tu vas pouvoir mieux répondre que moi.
Sur la partie value growth, encore une fois, il y a eu un phénomène additionnel au trend qui précédait le Covid. Ce trend, il était lié déjà à la baisse des taux d'intérêt et déjà à un certain nombre de ruptures technologiques qui faisaient que une partie de la cote liée à la technologie prenait le pas sur le reste de la cote. Ce qui est curieux dans le Covid, c'est que les phénomènes ont été amplifiés de toutes parts, c'est-à-dire que les phénomènes financiers ont été amplifiés par le fait que ça a accéléré et encore amplifié la baisse des taux d'intérêt qui précédait, Et par ailleurs, sur un plan concret, eh bien, les business models liés à l'économie réelle, d'une certaine manière, c'est-à-dire l'économie cyclique liée à l'industrie, à la construction, à l'automobile, ont été particulièrement pénalisés par la situation, par les confinements, ou transport aérien, etc. Et alors que les économies virtuelles liées à la technologie, aux télécommunications, etc., ont été favorisées par la situation du confinement. Donc on a un double effet qui est l'effet taux d'intérêt sur les valorisations, sur la croissance, et concrètement sur le momentum de nouvelles. On a eu aussi des nouvelles beaucoup plus favorables sur celles qui étaient déjà favorisées par la valorisation que sur celles qui étaient pénalisées. Et donc on s'est écarté encore à des niveaux, j'ai eu l'occasion de le dire, jamais vus depuis l'an 2000, entre la partie dite value, mais en réalité c'est de moins en moins une partie value, c'est plus la partie de l'économie traditionnelle, et puis la partie dite croissance, qui encore une fois se résume aujourd'hui pratiquement exclusivement à la tech, dans l'air du temps. Et il y a de bonnes raisons de penser que cet écart va se résorber un jour ou l'autre, mais en même temps, il n'y a aucun élément tangible pour décréter quand ce sera le moment, quoi. Il y a eu beaucoup, effectivement, de faux départs. Je pense que ça doit être lié à la reprise de la vie normale dans la réalité, quoi, au-delà des marchés financiers.
Ok. Merci, Régis. Écoutez, il n'y a pas d'autres messages, pas d'autres questions. Donc, merci pour votre présence. Portez-vous bien. Et prenez soin de vous. Voilà, à bientôt, peut-être à demain, ou j'espère en tout cas à très vite. Au revoir.